Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le mardi 8 septembre, Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la mobilisation du gouvernement pour tenter de répondre à l'inquiétude des éleveurs après une série d'attaques particulièrement cruelles donc contre des chevaux un peu partout en France. Un homme a été interpellé hier, mais l'enquête s'annonce difficile, on voit ça Agnès avec vous après les autres titres.
Un témoignage très attendu aujourd'hui des survivants de l'attentat contre Charlie Hebdo, voiture, avion, bateau. À l'hydrogène, le gouvernement dévoile aujourd'hui ses objectifs pour cette énergie de l'avenir. Nous irons en Espagne où le cap des 500 000 contaminations au Covid vient d'être franchi. Et puis de 7 pour le PSG, 7e cas positif. Et cette fois, c'est l'équipe de France qui en fait les frais avec l'éviction de Kylian Mbappé.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50 ou même un peu plus tôt, Léa Salamé.
Progression exponentielle du virus, hausse du nombre d'hospitalisations. Les dernières nouvelles sur le front de l'épidémie ne sont pas très bonnes. Faut-il s'inquiéter pour autant ou ne pas paniquer et continuer à vivre? Beaucoup, beaucoup de questions ce matin au ministre de la Santé, Olivier Véran, sera avec nous à 7h50.
Et à 8h20, nous recevons cette fois-ci la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Dans le grand entretien de la matinale, elle dialoguera avec vous. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter. Ce sont des attaques qui ont lieu la nuit dans le silence des campagnes. 153 attaques répertoriées à ce jour dans une vingtaine de départements. Un cheval blessé dans un pré en Côte d'Or, une jument retrouvée morte dans le Cantal, une ponette mutilée en Isère. La liste ne cesse de s'allonger. D'anecdotique au début de l'été, les attaques sont à présent redoutées par tous les éleveurs. Le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Agriculture se sont rendus hier en fin d'après-midi dans l'Oise. Ils ont pu s'entretenir avec des élus locaux et des propriétaires de chevaux. Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture.
Nous sommes aujourd'hui avec Gérald Darmanin aux côtés de la filière des équidés, de tous ces hommes, ces femmes qui possèdent des chevaux et qui, depuis maintenant plusieurs semaines, font face à des actes d'une cruauté absolument inouïe, des actes de barbarie, des sévices qui consistent à couper des oreilles des chevaux, à enlever les yeux, à lacérer les parties génitales, parfois à vider de leur sang les animaux dans leur champ. On est face à une situation qui est en tout point inacceptable, une situation qui diffuse une peur chez l'ensemble des éleveurs. Et nous voulions montrer que nous sommes ici mobilisés pour faire en sorte que cette crainte, elle puisse disparaître le plus rapidement possible, que cette cruauté, elle puisse cesser le plus rapidement possible et que, in fine, justice soit faite.
Des propos recueillis par David Di Giacomo. Un homme a été interpellé hier dans le Haut-Rhin. Il est soupçonné d'avoir participé à une attaque de poney dans un centre équestre de Lyon. L'homme nie les faits et les perquisitions à son domicile n'ont rien donné. En attendant, les propriétaires de chevaux s'organisent pour éviter les attaques. Reportage en Alsace de Luc Dreosto.
Anan a créé un groupe Facebook Agression Chevaux Alsace pour organiser des rondes entre propriétaires de chevaux et améliorer leur surveillance. Son propre animal dort dans une prairie à Rixheim avec une autre jument.
Plus personne n'est serein, plus personne n'est rassuré. Donc on préfère prendre de notre temps la nuit, la journée et mettre en place un système de rondes, installer des caméras et faire passer un rondier intervenant pareil pour nous aider.
Certains propriétaires vont même jusqu'à dormir dans une tente auprès de leurs animaux. Véronique possède une trentaine de chevaux dans un centre équestre du Bas-Rhin et elle a choisi d'impliquer les habitants de son village dans la surveillance.
Nous avons fait passer le message aux gens qui habitent aux alentours. Quand ils vont promener leurs chiens ou quand ils font leur sortie, ils vont vérifier si les chevaux, il n'y a pas de souci. Et nous-mêmes, on fait des sorties en voiture la nuit et on va vérifier. Les chevaux, on les aime, hein. C'est comme nos enfants, hein. Les nuits, on ne dort pas correctement, hein. On pense toujours à ça. Quand on voit passer des choses sur les réseaux sociaux, on a toujours peur que ça arrive chez nous, hein.
La Fédération française d'équitation incite aussi les propriétaires à retirer les licols des chevaux, ce qui empêche d'avoir une prise pour les tenir. Et puis pour éviter la localisation des animaux, il est suggéré de ne plus poster de photos de chevaux sur les réseaux sociaux.
Un reportage de Luc Dreosto de France Bleu Alsace.
Il est 7h04, Agnès. Quelle stratégie hydrogène pour la France?
Les ministres de l'économie, de l'industrie et de la transition écologique dévoilent ce matin le détail du plan de relance de l'économie concernant donc la filière hydrogène. Le budget est acté, 7 milliards d'euros sur 10 ans, mais quels sont les objectifs? Élément de réponse avec Fabien Cazot.
7 milliards d'ici 2030, dont 2 immédiatement débloqués d'ici 2022. Le gouvernement compte avant tout distribuer des aides directes aux entreprises porteuses de projets dans la production, le transport ou le stockage d'hydrogène. Seront également éligibles les acteurs, entreprises ou collectivités locales qui développent ou s'équipent en véhicules fonctionnant à l'hydrogène, bus, voitures ou encore navettes fluviales. Pour le maritime et l'aéronautique, il faudra encore attendre. L'objectif reste 2035 pour l'avion à hydrogène, ce qui ferait de l'Europe la pionnière en la matière, souligne-t-on au ministère de l'économie, devant les États-Unis et la Chine. Bercy est justement à la recherche de partenariats européens, notamment avec l'Allemagne, qui met, elle, 9 milliards sur la table pour soutenir sa filière. Des alliances pourraient notamment être envisagées dans les domaines du stockage ou du transport d'hydrogène. Plus compliqué en revanche pour la production par électrolyse, puisque la France compte notamment sur le nucléaire pour l'alimenter, alors que l'Allemagne, qui a fait le choix d'y renoncer, mise exclusivement sur les énergies renouvelables.
Et la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, sera donc l'invitée du 7-9 d'Inter ce matin. Rendez-vous, Nicolas, à 8h20. Les salariés du groupe Suez, partout dans le monde, appelés à cesser le travail durant 2 heures ce matin pour protester contre l'offre de rachat de Veolia. Parole de salariés dans le journal de 7h30. Après l'émotion suscitée par les vidéos et les photos diffusées hier au procès des attentats de janvier 2015, les mots des survivants aujourd'hui et des proches des victimes, des heures difficiles dans les salles de la Cour d'assises spéciale de Paris. Audience suivie pour France Inter par Sophie Parmentier.
Devant les images de la scène de crime insoutenable sur grand écran, les survivants de Charlie Hebdo et plusieurs proches de victimes ont quitté la salle d'audience en sanglots. Hier, quand d'autres, comme Maryse Wolinski, ont voulu regarder l'horreur du massacre. La veuve de Georges Wolinski dit qu'elle a juste baissé les yeux au moment où la cour s'est arrêtée sur la photo de son mari ensanglanté. Aujourd'hui, il n'y aura pas de visionnage éprouvant, mais des récits sans doute bouleversants. D'abord, la parole de ceux qui ont croisé les frères Kouachi au moment où les terroristes cherchaient encore Charlie Hebdo. Puis, on entendra les proches de Frédéric Boisseau, l'agent d'entretien abattu par les Kouachi. Puis, la dessinatrice Coco, qui a dû composer le code secret du journal sous la menace des Kalachnikov. À la barre seront aussi entendus le journaliste Laurent Léger et l'écrivaine Sigolène Vinson, celle que Chérif Kouachi a épargnée en lui demandant de lire le Coran. Hier, sur grand écran, on a vu l'effroi dans les yeux de Sigolène Vinson juste après le départ des terroristes cagoulés de noir. Raconté 5 ans après, sera pour tous les rescapés une immense épreuve.
Et le compte-rendu des audiences, les dessins de Mathieu Boucheron et les images glaçantes de la scène de crime sont à retrouver sur franceinter.fr. La crise sanitaire va-t-elle consacrer la revanche des villes moyennes en France ? Oui, si l'on en croit un sondage IFOP commandé par l'exécutif, 84% des Français préfèrent aujourd'hui vivre dans une ville moyenne que dans une métropole. Le plan Cœur de Ville, qui depuis 2 ans tente de réanimer les centres-villes, commence aussi peut-être à porter ses fruits. Les représentants des 22 territoires du programme ont rendez-vous aujourd'hui à Paris pour un bilan d'étape. Bilan que Claire Chaudière dresse à Mâcon, en Saône-et-Loire. 33 000 habitants. Reportage.
Après des années de montage de dossiers allant jusqu'à la préemption d'immeubles insalubres, place aux engins de chantier.
La ville est complètement en travaux un peu de partout. On a plein de petits chantiers.
Ici, une démolition, explique Sylvain Renaud, en charge du programme Cœur de Ville à la mairie de Mâcon, pour construire un immeuble de standing avec terrasse et petits jardins. Objectif, attirer des ménages qui fuient les grandes villes comme Lyon et qui frappent à la porte.
Très clairement, un changement de regard sur Mâcon. Au niveau de l'habitat, on a des investisseurs qui viennent, alors qu'il y a 3-4 ans, on n'avait pas cette dynamique-là du tout. On relève la tête, on sent une nouvelle dynamique sur le centre-ville.
Mais la situation reste très fragile, avec encore 18% de taux de vacances commerciales, un quasi-record. Christine et Jocelyne de Mâconnaise s'impatientent.
Je ne vois pas le redémarrage.
Oui, parce que les boutiques ne tiennent pas, ils ouvrent 1 mois, 2 mois, puis ça referme. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans la zone commerciale.
Des zones commerciales, effectivement, à perte de vue au nord et au sud de la ville. Alors, au-delà des effets d'annonce, à Caen, un dispositif national stoppant véritablement leur expansion, interroge René Dupéret, représentant des commerçants du centre-ville.
J'ai pas l'impression que tout soit en place pour limiter le développement périphérique tout azimut. De dire, voilà, on arrête les conneries, on met en place un système. Après, il y a des moyens énormes qui sont mis et il y a du positif.
Avec au total, un peu partout en France, se félicite le gouvernement, pas moins de 1500 actions et chantiers, aujourd'hui prêts à démarrer.
Et ce sont 222 territoires qui sont concernés par ce programme Cœur de Ville.
Il est 7h10, Agnès, la barre des 500 000 cas de Covid dépassés en Espagne.
C'est l'un des pays européens les plus touchés par la pandémie et une certaine psychose semble gagner les parents qui sont de plus en plus nombreux à refuser d'envoyer leurs enfants à l'école. Reportage de Marie-Hélène Balesterou.
Le droit à la santé prime-t-il sur le droit à l'éducation ? Pour de nombreux parents d'élèves en Espagne, il n'y a pas de doute. Inquiets et persuadés que les établissements scolaires n'offrent pas suffisamment de garanties sanitaires face à la pandémie, ils ont décidé de ne pas envoyer leurs enfants à l'école, quitte à braver les sanctions prévues pour absentéisme, car la scolarité en Espagne est obligatoire de 6 à 16 ans. Certains responsables régionaux compétents en matière d'éducation ont déjà mis en garde contre de possibles sanctions allant jusqu'à des peines de prison. Olga Leralta, la représentante de la région andalouse à la Confédération nationale d'associations de parents d'élèves, s'insurge.
Nous avons demandé à maintes reprises aux autorités chargées de l'éducation qu'elles cessent de menacer les familles de déclencher les protocoles d'absentéisme et qu'elles travaillent de façon conjointe avec les autres administrations et les mairies pour résoudre les incertitudes et atténuer la peur que ressentent les familles dans cette situation. En tant que représentants de familles très diverses, nous soutenons ceux qui iront en cours et ceux qui n'iront pas. C'est pourquoi nous avons demandé l'avis de nos conseillers juridiques afin de soutenir les familles qui décideront de ne pas emmener leurs enfants à l'école.
Les parents insoumis seront-ils sanctionnés ? Les avis sont partagés. D'ailleurs, la ministre de l'Éducation, Isabel Cela, a commandé un rapport sur la question, car le gouvernement espagnol ne sait pas quelle est sa marge de manœuvre sur le plan juridique. Madrid, Marie-Hélène Balestero, France Inter.
En France, une semaine après la rentrée, 28 établissements scolaires et 262 classes sont fermées en raison de cas de Covid. La Guadeloupe est particulièrement touchée, bilan dressé hier soir par le ministre de l'Éducation nationale. Des contaminations qui touchent le monde du sport et particulièrement le PSG. Cette fois, c'est Kylian Mbappé dont le test s'est révélé positif hier, alors qu'il s'entraînait avec l'équipe de France à la veille de France-Croatie. Cédric Guillou.
Kylian Mbappé aurait dû s'asseoir sur le banc des remplaçants ce soir au Stade de France. Didier Deschamps n'ayant pas forcément dans l'idée de le titulariser. Au lieu de ça, l'attaquant français va vivre ce match France-Croatie depuis chez lui. Même si les Bleus évoluent dans une bulle sanitaire à Clairefontaine, se préservant de l'extérieur, Mbappé a été testé positif au coronavirus. Le résultat du contrôle diligenté par l'UEFA est tombé hier soir. Il a immédiatement été placé à l'écart du groupe à l'issue d'un entraînement auquel il avait participé normalement et a donc regagné son domicile dans la soirée. Kylian Mbappé sera également absent pour le retour du Paris Saint-Germain en Ligue 1 jeudi soir à Lens, comme 6 de ses coéquipiers du PSG. Il va aussi manquer l'affiche contre Marseille prévue dimanche. Selon le protocole médical instauré par la Ligue de football professionnel, chaque joueur testé positif doit en effet être isolé pendant 8 jours.
France-Croatie donc ce soir en Ligue des Nations au Stade de France et à huis clos. Pas de huis clos pour le tournoi de Roland-Garros qui débute le 27 septembre, mais une jauge fixée à 11 500 spectateurs par jour. Mais la situation inquiète les sportifs. La numéro 1 mondiale, l'Australienne Ashleigh Barty, annonce ce matin qu'elle ne viendra pas porter d'Auteuil. Serena Williams, elle, s'interroge. Des tests hier sur le Tour de France lors de la journée de repos. On n'a pas encore les résultats. 10e étape aujourd'hui. 168 km entre l'île d'Oléron et l'île de Ré.